Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tout le monde. Je ne suis pas en avance. Voilà, donc on va faire une lecture si vous voulez bien. On va la faire dans l'Ancien Testament, on va faire un premier texte dans le deuxième livre de Samuel. Voilà le titre que nous pouvons donner à notre méditation. Relever après une chute. Et vous allez voir que quand Dieu nous reprend en main, eh bien, voilà, c'est pour le meilleur. Vous avez certainement entendu parler d'un personnage qui nous intéresse. On va découvrir son nom d'ici quelques instants. Donc, 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Alors, c'est une histoire troublante, parce que ça se situe dans une période tragique de l'histoire d'Israël, au moment de la mort du premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Et celui qui va lui succéder, c'est David, le roi David. Bon, il y aura un petit intermède avec le fils de Saül, mais pas très très longtemps, quelques années, Isboshet. Mais en tous les cas, il y a eu un conflit après la mort du premier roi, entre le premier et le deuxième, le premier qui a été déchu en quelque sorte de sa royauté, pour ses désobéissances, pour son orgueil, Saül naturellement, et puis David qui va monter sur le trône avec tout l'assentiment de Dieu. Il va devenir naturellement roi d'Israël, et il va y avoir une guerre fratricide entre les deux parties pendant un moment. C'est terrible, hein, quand il y a des successions comme ça, et où chacun est tenant d'un parti, tenant d'un autre, etc., etc. Mais bon, le plan de Dieu va se réaliser, puisque c'est quand même David, hein, qui est vraiment mis en place par Dieu. Et c'est dans ces circonstances, il y a eu guerre, donc conflit, voilà, un choc militaire, on pourrait dire, pour déterminer qui sera le roi. Et il y a eu donc cette histoire que je lis à partir du verset 4. Il nous est dit ceci: Jonathan, fils de Saül, qui est mort avec son père à la guerre, hein, sur les montagnes de Gilboa, ils ont été tués tous les deux, le roi et le jeune prince. Donc Jonathan, qui était l'ami de David, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, l'enfant tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Voilà. Alors on va prendre cette première partie pour expliquer et nous donner de prendre en considération ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a, nous pourrions dire, un relèvement après une chute. Et là, c'est une chute physique, hein. On ne peut pas dire que c'est une chute morale. Une chute physique, parce que nous pouvons dire que Dieu est fidèle. Que Dieu est celui qui est capable de faire des choses là où les hommes sont limités et s'arrêtent. Alors Jonathan, je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand ami, une amitié véritable entre David et puis ce garçon, ils sont vraisemblablement du même âge. Et nous voyons que dans le choc de la guerre, eh bien Jonathan donc avait un petit enfant, et il nous est dit tout simplement qu'il était perclus des deux pieds, c'est-à-dire qu'il était boiteux, il était infirme. Il avait été, dans les circonstances qui nous sont racontées ensuite, eh bien il nous est dit ce qui lui était arrivé. 5 ans avait-il, et lorsque on a annoncé la mort de son grand-père, le roi Saül, quand on a annoncé la mort de son père, Jonathan, ça a été quelque chose de terrible, hein, dans la famille, naturellement, et dans tout le palais, parce que là, il y avait véritablement la fin d'une dynastie. C'était pas seulement une dynastie qui a duré très peu de temps, mais néanmoins, ça a quand même duré 40 ans sous le roi, donc, Saül. Et quand la nouvelle de la mort, donc, du roi et de Jonathan, son père, il nous est dit que cet enfant était élevé par une nourrice. Voilà. C'était pas sa mère, c'était une nourrice, on verra pourquoi. Et elle l'a pris dans ses bras, cet enfant, au moment où il y avait, certainement le feu dans le palais, enfin, bon, des soldats qui arrivaient pour tuer tout le monde, hein, parce que c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, voilà, le coupable paie pour lui-même, mais dans cette époque, c'est-à-dire que quand il y avait une défaite, hein, au palais, le roi, ses femmes, ses enfants, tout le monde est passé par le fil de l'épée, hein. C'était pas très juste, mais enfin, bon, voilà, c'était comme ça. Et il nous est dit que sa nourrice, alors, elle s'est enfuie, elle l'a saisie dans ses bras, et comme elle se précipitait pour sauver sa vie et sauver la vie de l'enfant, eh bien, elle l'a laissé tomber, tout simplement, et à partir de ce moment-là, cet enfant a dû tomber sur ses pieds, c'était tout jeune, hein, et il a eu les deux jambes cassées. Voilà. Hein, il est resté dans sa chute un infirme, et il nous a dit que son nom, il s'appelait Mephibosheth. Un nom à retenir, pas facile à prononcer, mais enfin, voilà, parce qu'il y a derrière une belle histoire. Vous savez, il y a bien des gens qui sont laissés tomber, hein, consciemment ou fortuitement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça laisse des traces, surtout dans l'enfance. Vous savez, aujourd'hui, notre monde et notre société pourraient répertorier les laissés pour compte, tous ceux qui ont été abandonnés sur le bas de la route. Et là, il y avait la mort de son père, hein. Ça, c'est des impondérables, on pourrait dire. Mais quelquefois, vous savez, quand on entend toutes les nouvelles qui nous parviennent, voilà, ici, là, etc., etc. Moi, j'ai été horrifié cette semaine quand j'ai entendu l'histoire de cette jeune mère de Clermont-Ferrand qui, ben voilà, il y a un mois et demi, disait devant les caméras « Rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils, c'est terrible !» Hein, bon, je ne veux pas avancer le procès, mais hein, elle pleurait et pleurait, enfin bon, voilà, hein, ceci et cela, et puis cette semaine, on a appris que c'est elle qui l'avait tué. Ouh, terrible, hein. C'est terrible des choses pareilles, vous vous rendez compte dans quel monde on est? Alors on pouvait peut-être dire que dans l'Antiquité c'était barbare, mais je pense que dans le 21e siècle il y a aussi de la barbarie, hein. Ouais. Alors, ce pauvre enfant, il est mort là. Bon, celui-ci, il est vivant, mais il est extropié. Et je pense que quand on est dans cet état, il n'y a pas trop d'avenir, hein. C'est des perspectives qui sont malheureuses. D'ailleurs, dans la suite que je vais vous lire là, eh bien, il est resté pendant des années, finalement cloîtré, reclus, bien qu'il soit prince, bien qu'il ait eu en sort certainement des partisans autour de lui, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire dans son état d'infirme? On n'aurait pas mis un nouveau roi infirme sur le trône, pas possible. Il fallait quelqu'un qui soit vaillant, qui soit en bonne santé. Alors on en est là, il tomba, ça arrive comme ça, vous savez, il tomba et il resta tout simplement, eh bien, boiteux. Et que de drames, des vies qui basculent d'un seul coup, que ce soit sur le plan physique, comme Mephibosheth, que ce soit sur le plan moral, c'est encore autre chose. Des gens qui ont été cassés dans la jeunesse, d'une manière ou d'une autre, par des violences, par des viols, je crois que ça fait partie aussi des choses de notre monde, par des mépris, par des attitudes de désamour. Hein, ou un enfant, quand il se sent pas aimé, ben, qu'est-ce que vous voulez, il va pas aller loin, hein. Il lui restera une blessure invisible, mais une blessure au fond de son cœur, hein. Ou alors, avec toutes ces compositions et recompositions de foyers, de ménages, de beaux-pères, de belles-mères, de demi-frères, de demi-sœurs, avec 10 grands-pères, 10 grands-mères de chaque côté, ça fait beaucoup, hein. C'est quelque chose, hein. Mais c'est la société qui est comme ça, hein. Alors, relèvement après la chute. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Et il sait très bien tous ceux qui souffrent ces souffrances-là. Et il y a des choses qui peuvent être dites et des choses qui sont non dites. Des choses qui sont portées. Et qui restent quelquefois dans la conscience et dans le silence. Eh bien, jusqu'à la fin de la vie de ces gens. Hein, ils se disent, mais pourquoi vivre? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui s'en sortent. Parce que bon, voilà, ils ont une volonté au-dessus. On a vu des gens qui ont voilà, qui ont fait des prouesses, hein. Dernièrement, il y avait un homme qui avait été blessé au visage, il était aveugle, hein, par son frère quand il était petit. Et puis, il a raconté son histoire, il a dit, mais moi, je me suis pas arrêté là. Je suis aveugle, j'étais aveugle, enfin, j'ai reçu cette blessure. Et il a pardonné à son frère. et il a monté une entreprise qui est devenue maintenant une entreprise, on pourrait dire, internationale. Donc voilà, il y en a, mais il y en a beaucoup qui restent sur le bord de la route. Il y a beaucoup de Bartimée, qui sont assis sur le bord du chemin. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé après à notre Méphibosheth? Alors, on va lire la suite, vous la connaissez parce que c'est le texte que nous prenons souvent en référence. Je vais le commenter au fur et à mesure, mais pour nous dire qu'il y a parfois des rencontres dans la vie. Il y a parfois des appels dans la vie. Il y a parfois des occasions, des opportunités auxquelles nous n'aurions jamais pensé, que nous n'aurions certainement pas imaginé, qui arrivent et qui là, ça va être la porte de salut et qui va faire que Dieu va changer le cours des choses. Il va donner à notre avis, à notre vie, eh bien, une nouvelle orientation. Voilà, donc 2 Samuel chapitre 9, on va le lire et je vais tâcher de commenter au fur et à mesure. Alors, verset 1er, 2 Samuel, chapitre 9, c'est deux pages plus loin, et puis verset 1er, David, qui est le roi, maintenant en place, il est instauré roi, il est roi d'Israël. À un moment donné, il s'est dit, mais c'est vrai que le roi Saül, qui lui avait fait tellement de mal à David, vous connaissez l'histoire, s'est posé la question, il m'a dit, voilà, je sais que Saül, le roi précédent, est mort, ça c'est sûr. Je sais que mon grand ami, son fils, Jonathan, est mort. Et il pose la question, il dit ceci, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» On a eu raison de dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David pouvait se féliciter de la situation s'il était devenu roi, c'est parce que celui qui était avant lui était mort. Quand on connaît la guéguerre qu'il y avait depuis des décennies entre les deux. Et il aurait pu se féliciter, il aurait pu dire, bien voilà, maintenant, le roi c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Je suis tranquille de cette façon. Mais il se pose la question en homme de bien. Et il interroge son administration, ses gens, etc. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait resté, qui aurait survécu au drame de cette guerre. Alors, avec cette intention de faire du bien à ses anciens ennemis, en quelque sorte, ça pouvait être ça, parce que Saül, c'était une dynastie. Il avait des soldats, il avait des serviteurs, il avait toute une administration, il avait des gens qui étaient pour lui, etc., etc. Il se dit, mais c'est vrai, ça c'est l'histoire, c'est le passé. Mais moi, je ne veux pas rester sur ce passé. S'il y a encore un homme, s'il y a quelqu'un de cette famille, eh bien, à ce moment-là, moi, mon intention, c'est de le bénir. Faire du bien, c'est bénir. Voilà. Et en raison d'une chose, c'est qu'il avait son grand ami qui s'appelait Jonathan, qui, malgré l'opposition de son père, le roi Saül, était très lié avec David. Il se dit, mais ne serait-ce que pour le souvenir de mon ami Jonathan, moi, je veux faire du bien. S'il reste quelqu'un de la famille, quelqu'un de la maison. Effectivement, il y avait, et les choses se font comme ça, vous savez, avec Dieu, quand nous sommes sur une piste de recherche, Dieu nous fera passer par différents chemins, mais néanmoins pour nous faire atteindre le but. Et il nous est simplement dit, d'une manière tout à fait sibylline, il y avait un serviteur de la maison de Saül, tout simplement, c'est raconté comme une simple histoire. Cet homme s'appelait Tsiba, cet homme servait le parti adverse, naturellement. Et le roi l'a fait venir, tout simplement, dans son palais, et lui a posé cette question, « Mais tu es bien de Siba ?» Il lui répondit, « Mais je suis Siba, naturellement, je suis ton serviteur, bien qu'il était quand même de l'autre côté, quand même pas mal de temps. » Le roi lui dit, la question qu'il s'était posée auparavant, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Ce que nous apprenons, c'est que, si David est bon, c'est parce qu'il s'imprègne de la bonté qu'il y a chez Dieu. Ce qui nous montre que David est un homme de foi. Voilà. Il imite Dieu parce qu'il sait que Dieu est bon et lui, s'il veut véritablement faire la manifestation, qu'il est un disciple de Dieu, qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un serviteur de Dieu, eh bien, il veut être comme son maître. Et il dit, bien, en raison de la bonté de Dieu, moi je veux faire du bien. C'est quand même terrible quand on a cette prétention de pouvoir et de vouloir d'être enfant de Dieu et de faire du mal. Donc on n'est plus en phase avec notre Père, celui qui est dans les cieux. C'est ce que Jean dira d'ailleurs dans une de ses épîtres. Il dira, mais vous dites « j'aime Dieu » et vous haïssez votre frère. C'est quand même un paradoxe ça, hein ? C'est un paradoxe. Alors, David est là pour justement eh bien, être l'exemple même de ce qu'il a reçu, de la grâce et de la part de Dieu, sa bonté. Siba lui répondit, et il répondit au roi, « Mais oui, il y a encore quelqu'un de cette maison, de la maison de Jonathan, un fils. Il est perclus des pieds. » Donc il va donner, c'était certainement de notoriété publique, que le fils, le dernier fils hein, de cette dynastie survivant, eh bien, était un boiteux, était perclus des pieds. On avait passé naturellement depuis bien longtemps sur l'histoire, puisqu'il était devenu un jeune homme, hein, Mephibosheth, ça faisait certainement des années, mais on savait que de toute façon il était marqué. Certains auraient pu y voir une malédiction de Dieu. Ah, il est boiteux, c'est parce que Dieu a jugé son grand-père, il a jugé son père, etc., etc. Mais c'est pas ça du tout, hein. On l'a vu. C'est quelqu'un qui l'a laissé tomber. Pour un enfant, être laissé tomber à 5 ans, ça fait quand même pas mal, hein. C'est quand même difficile. Le roi lui dit, mais où est-il? Et Tsiba, qui savait toute chose, hein, parce qu'il était encore dans les petits papiers de la maison, ancienne maison, Tsiba lui répondit, mais il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, c'est-à-dire un village qui se trouve, là je crois, dans la région du nord d'Israël, si ma mémoire est fidèle, mais peu importe. Il était là, il était reclus, ce pauvre Mephibosheth. Il n'avait plus aucun espoir de rien du tout. Hein, il avait encore les anciens serviteurs du roi Saül, parce que c'était quand même le fils de Jonathan. Il était encore considéré comme un prince, mais un prince hein, voilà, impotent, impuissant, réduit à rien du tout. Et c'est là où justement commence cette belle histoire que vous connaissez pour la plupart, parce que vous connaissez bien votre Bible. Le roi David l'envoya chercher dans sa maison de Makir à Lodebar. Et Mephibosheth nous raconte la suite. Vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Ah, ça dû être quand même un événement, parce que je suppose que Mephibosheth, quand ça lui est arrivé, il avait 5 ans, et qu'il n'avait jamais vu le nouveau roi, le roi David. Peut-être avait-il appris, ou lui a-t-on appris, que si Saül, l'ancien roi, et le nouveau roi David, avaient une querelle, une inimitié, enfin surtout l'un à l'égard de l'autre, parce que jamais David n'a eu de mauvais sentiments que du respect pour le roi en place à ce moment-là. Mais par contre, le roi Saül avait une haine jusqu'à vouloir tuer David. Vous connaissez les textes, il l'a poursuivi pendant, je crois, 17 ans de sa vie, le pauvre David. Il a dû fuir, parce que bon, tentative de meurtre, d'assassinat, enfin toutes sortes de choses, sur la personne de David par l'ancien roi. Et on avait dû lui dire, mais tu sais, ton grand-père a eu ce comportement vis-à-vis de David, du roi, du nouveau roi. Maintenant, on voudrait te dire que Jonathan était le meilleur ami de David. C'était un ami, il nous est dit, avec des paroles tout à fait particulières, qu'il y avait là, et n'y voyait rien de quelque chose de déplacé, mais il y avait une amitié qui était un véritable amour sincère et pur entre ces deux hommes. Je le dis, faut le dire. Par les temps qui courent, faut le dire, parce qu'on a voulu faire dire n'importe quoi. Alors, quand il a su qu'on l'appelait, alors Mephibosheth n'avait pas d'autre choix, il fallait qu'il vienne au palais rencontrer David. Et il nous est dit que quand il a vu David, il s'est courbé devant lui, tout simplement, et il s'est prosterné devant David. David va lui poser la question, il va lui dire, tout simplement, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je veux te faire du bien. » Le pauvre garçon, depuis son enfance, qui avait été estropié, dont il ne pouvait absolument pas se tenir debout, sinon il fallait qu'il soit accompagné de chaque côté de lui, quelqu'un qui le prenne par les épaules, et qui essaie de le faire, tant bien que mal, avancer, ou s'il circulait peut-être dans je ne sais quel véhicule qui pouvait un petit peu le insuppléer à l'absence de ses jambes, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il va entendre ça. « Je t'ai fait venir non pas pour te juger, mais je t'ai fait venir pour le contraire. Je veux, moi, le roi, j'ai la puissance maintenant de te faire du bien. Et je veux te faire le plus grand bien possible. » Et cela, il le dira, « par considération à mon ami qui est mort, mon grand ami, ton père, Jonathan, et ce que je ne peux plus donner à mon ami, je vais le donner à son fils, c'est-à-dire à toi. » C'est beau, hein ? Moi, je dis que c'est des nobles sentiments, tout ça, c'est quelque chose de beau. Il y a des belles choses dans la Bible, hein. Il y a que des belles choses. Alors, David continue et lui dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Et c'est là ce que je voudrais dire. C'est surtout ça, cette affaire qui est quand même extraordinaire quand on connaît le contexte d'austérité, quand on connaît tout l'arrière-plan, quand David, l'homme de bien, l'homme de bénédiction, va prendre la décision de le faire venir. Et ensuite, quand il sera devant lui, Mephibosheth va entendre une parole, qui va être une parole qui va changer, qui va bouleverser sa vie, sur deux points. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père Saül et de ton père Jonathan. Ah oui, parce que les terres avaient été confisquées. Oui, le roi, il était le roi, et puis il s'est dit, maintenant, moi j'ai vaincu mon ennemi. Enfin, Dieu m'a donné de prendre le dessus, excusez-moi. Il m'a donné la royauté, c'est mieux comme ça, c'est mieux dit comme ça, et il aurait pu les garder pour lui, parce que c'est confiscation, hein, voilà, le plus fort, c'est lui qui emporte tout. Il lui dit non, cette triste histoire malheureuse t'a dépossédé de ta dignité de prince, voire même prince héritier, incapable d'être roi, puisque on sait très bien les raisons, mais toujours est-il, je te rendrai les terres de ton père et de ton grand-père. Ça, c'était quelque chose, c'était une générosité, parce que je suppose que toute la famille, la dynastie de Saül, n'avait pas qu'un petit lopin d'un hectare. Hein. Quand on est roi, je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est certainement beaucoup plus vaste que ça. Et il lui dit, mais je te les rendrai, il n'y a pas de problème. Elles sont à toi, elles ont été à toi. Maintenant, eh bien, tu pourras en jouir, tu pourras en faire ce que tu veux, tu en es le maître. C'est-à-dire que ce sera ta propriété, et ça sera une source de revenus jusqu'à la fin de ta vie, et pour tes descendants aussi. Parce que on sait très bien que dans ces temps-là, quelqu'un qui possédait une fortune immobilière, hein, en terrain ou quoi que ce soit, il mettait des intendants, il mettait des serviteurs, et puis ça reportait. C'était le temps des seigneurs. Hein. Vous savez que la France a connu ça pendant des siècles et des siècles. Hein. Quelqu'un qui possédait une terre, un château, etc., etc., ben c'est pas lui qui travaillait. Hein. Faisait travailler les autres, ça faisait un rapport, naturellement. Et c'est ce qui a fait la richesse hein, de certains. Donc il allait retrouver, en quelque sorte, une petite partie de sa gloire, de la gloire de sa famille, en tous les cas. Alors, je te rendrai ces terres. Et puis il lui dit une deuxième chose, qui est beaucoup plus importante que les terres, qui est beaucoup plus importante que tout le reste. Il lui dit, mais maintenant, désormais, je veux que tu manges à ma table tous les jours. Et là, nous arrivons à la dimension spirituelle des choses. Je veux que tu manges, tu mangeras toujours à ma table. Entendant ça, Mephibosheth s'est prosterné devant le roi. Il avait déjà fait une première fois, il fait une deuxième fois. Et il va lui dire ceci, qui le met tout à fait en condition pour être agréé, pour pouvoir recevoir, mais ne l'a pas fait d'une manière intéressée, comme quand on se couche par terre pour soi-disant s'humilier, ce qui ne serait qu'une véritable hypocrisie, mais il l'a fait de tout son cœur. Et c'est peut-être son infirmité qui lui avait appris à être humble. Combien il était différent de son grand-père Saül, qui était un orgueilleux. Et s'il a perdu la royauté, c'était à cause de son orgueil, vous comprenez? D'ailleurs, la Bible nous le dit dans Jacques. Il nous est dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. On en a tout à fait la leçon cet après-midi. Qu'est-ce que ton serviteur répondra-t-il au roi pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Eh ben, c'est pas tous les princes qui disent ça, hein. Ah ouais, parce que dites donc, vous vous rendez compte? Quand vous êtes élevé en dignité, quand vous êtes là, eh bien, un petit peu, mais il n'avait pratiquement plus personne, le pauvre Mephibosheth. Vous savez que Dieu regarde à ceux qui sont humbles, à ceux qui savent se courber, à ceux qui savent accepter quelque part les lois impitoyables du sort, excusez-moi l'expression parce que c'est pas dans le langage chrétien, et qui quelquefois sont capables de se courber devant les diverses fortunes de la vie et de dire « je me révolte pas ». C'est ainsi. Vous savez comme Job, hein, Il nous est dit que Job, ça lui est tombé, mais alors comme un orage, comme un tsunami sur la tête. Ça arrivait de tous les côtés, sa femme, ses enfants, ses troupeaux, ses serviteurs. Il a tout perdu, comme Méphibosheth. Et il nous est dit dans la fin du chapitre 2 que Job ne pécha aucunement par les paroles de sa bouche. Il a tout encaissé. Ça s'appelle de la flexibilité et de la souplesse. Hein. Et il y en a des choses à avaler, hein, quelquefois dans la vie. Hein. Des injustices, la méchanceté des gens. Là, quand vous commencez à tomber un petit peu en faiblesse, on se rue sur vous pour vous achever. C'est terrible ça, mais ça arrive tous les jours. Hein. On a tout ça autour de nous. Hein. C'est terrible. Il suffit qu'un homme en politique commence à prendre un petit coup de... dans l'aile, comme on dit, hein. Je peux vous dire que tous ses ennemis vont venir, hein. Puis ses amis vont disparaître. C'est terrible, hein. Ça, c'est la loi du plus fort. Soi-disant, je me suis laissé dire qu'elle était la meilleure. Maintenant, on l'a vérifié depuis des siècles et des siècles, hein. Alors, il se prosterna, et puis il va lui dire, avec une sincérité de cœur, un chien mort. Alors, un chien en Israël, c'est vraiment l'animal maudit. Déjà, il se dit, pour lui. Et puis mort, parce qu'il devait voir, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le palais du roi? Dans le palais du roi, il y a des réjouissances, il y a des festins, il y a des danses, il y a toutes sortes de choses qui normalement sont faites pour, exprimer la joie et la grandeur du règne et du royaume. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec des pieds qui ne bougent plus? Je suis mort, et en plus je suis comme un chien. Comment tu fais? Comment, David, tu m'expliques? Comment tu peux m'aimer, moi? Ah oui. Mais David est un homme dont le cœur est rempli de compassion. C'est vrai. Moi, j'y vois déjà un prototype, en quelque sorte, ou un prototype, ça se dit pas, mais une préfiguration de Jésus, qui pouvait être ému de compassion pour tous les malheureux qu'il voyait. Bartimée, l'aveugle, le boiteux, le paralytique, etc., etc. Il y a différents regards dans la vie, hein. Et David avait ce regard-là. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Donne, hein, c'est bien le mot, hein, voilà, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. L'acte a été passé, c'est un acte juridique, en quelque sorte. Le roi a parlé, maintenant les choses vont être faites. Et de celui qui n'avait plus rien, qui était complètement déshérité, il va devenir un homme riche. » Et il lui dit à Tsiba, c'est pas... à Méphibosheth, parce que Méphibosheth est devenu seigneur maintenant. Il est rentré officiellement dans sa position de prince. Il dit, tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Eh oui, il pourvoit par ses besoins. C'est ce que j'expliquais, que dans les grands domaines, eh bien, il y avait véritablement, hein, de quoi non seulement nourrir le prince, hein, ou le seigneur, mais de nourrir aussi tous les autres. C'était une œuvre sociale, en quelque sorte. Hein. « Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Alors, c'est un paradoxe, parce que s'il mange à la table du roi, il ne peut pas manger à la table de chez lui. Mais là, il y a une grâce qui est donnée. C'est qu'une bénédiction qui est donnée à Méphibosheth, un homme, va être une bénédiction pour des dizaines et des centaines dans la maison de Méphibosheth. Vous vous rendez compte? Parce qu'un homme qui est béni, eh bien, il sera en bénédiction aux autres, de par un décret du roi. De par un décret du roi, de notre roi. Un chrétien, il ne vit pas pour tout seul. Il ne vit pas pour lui tout seul, pardon. Il ne vit pas d'une manière égoïste. À partir du moment où il a reçu une bénédiction, il va la partager. Parce qu'il avait deux tables. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. C'est déjà pas mal, hein. Il faut faire les fiches de paye à la fin du mois, hein. Mais c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il y avait déjà tout un monde derrière. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Vous voulez que je vous dise maintenant que quand on est appelé par le roi, quand on est appelé par le seigneur des seigneurs et le roi des rois, eh bien c'est exactement ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Ouais, dans la vie, on était boiteux à cause du monde dans lequel nous vivons. Un monde d'injustice, un monde de corruption, boiteux physique, avec toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans les corps et voilà. Boiteux psychologiques et moraux. et boiteux spirituel. Et quand le Seigneur nous appelle, c'est qu'il veut nous réhabiliter. Et vous savez, nous avons été réhabilités non pas par Jonathan, l'amitié de David et Jonathan, nous avons été réhabilités avec Dieu en raison de ce que Dieu aime le plus au monde, c'est son Fils Jésus-Christ. Et c'est à cause de lui. Eh oui. Vous voyez qu'il y a des histoires qui se retrouvent, hein. C'est toujours la même histoire, de toute façon, hein. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher, de plus précieux, d'excellence, de perfection, de sainteté, de sublime. C'est à cause de Jésus. Et David a réhabilité Méphibosheth à cause de Jonathan. Jonathan a payé le sacrifice, si on pourrait dire, hein, parce qu'il est mort à la guerre. D'accord. Enfin bon, ça c'est une chose commune et humaine. Mais quand même, Méphibosheth mangea. Vous avez remarqué la conjugaison, c'est qu'il y a du temps qui a passé entre la promesse qui a été faite et puis son exécution. Il mangea, ça veut dire que c'est déjà fait. Depuis des mois, depuis des années, il mangea, le chroniqueur qui est l'auteur du livre de Samuel, nous dit, mais il mangea à la table de David, et il n'était pas considéré comme au bout de table, comme d'autres courtisans, mais comme l'un des fils du roi, c'est-à-dire avoir la première place. Ah, je comprends David. Je comprends David quand il a écrit ceci. Vous connaissez l'Éternel est mon berger? Eh oui. Et il me dit, il dresse devant moi une table et ma coupe déborde. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, eh bien le but du Seigneur, c'est que nous soyons assis à sa table et que notre coupe puisse déborder. Et ça nous donne envie de dire, mais j'habiterai tous les jours dans la maison de mon Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'environnent ou m'environneront, seront avec moi, m'accompagneront. Et ce qui a certainement présidé à la vie de Méphibosheth jusqu'à la fin de ses jours, bénédiction céleste qui passait par le palais de David, ça a été véritablement une grâce. Comme nous, le Seigneur a dressé pour nous une table pour que notre coupe déborde, que nous ne manquions de rien tant que nous restons dans le palais, tant que nous restons dans sa proximité, dans sa présence, et que nous le reconnaissions. Jusqu'au moment où nos yeux se fermeront aux choses de cette vie, que nous le reconnaissions comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, comme notre Roi des Rois. C'est cela ce que ça veut dire, tout simplement. Alors il a mangé à sa table. J'ai jamais été invité à une table royale. Priez si ça peut m'arriver. Peut-être que à l'Élysée ça peut arriver, hein. Enfin bon, je m'y attends pas trop. Mais toujours est-il que les grandes tables, vous savez qu'on fait beaucoup de bruit, nous, chez nous, en France, hein, pour la gastronomie. Hein. Oh, ça ne veut pas être le pot de rillettes posé sur la table et ceci et cela, à la bonne franquette, comme on dit. Hein. Eh, la table d'un roi, ça doit être quelque chose. Hein. Eh. Comme l'un des fils du roi, c'est-à-dire avec tous les privilèges, avec tous les honneurs, avec toute la gloire, eh bien, c'est ce que nous avons si nous savons le voir. Ne nous lassons pas, moi je voudrais le dire, ne nous lassons pas des bonnes choses que Dieu nous a données. Il y a malheureusement trop de chrétiens qui disent « Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de quoi ? Est-ce que nous serions comme les Hébreux dans le désert ? Marre de la manne ? Marre des cailles ? C'est vrai, quand on mange des cailles avec des plumes, c'est un peu difficile à avaler. Mais quand même, où il y avait véritablement une bénédiction dans un désert. » Ouais. Méphibosheth, il est sorti de son désert avec ses pieds cassés. Nous, nous sommes sortis de notre désert avec les pieds cassés, le cœur cassé, le cœur brisé, avec toutes sortes de choses. Et il nous a dit, viens vers moi, rentre dans mon palais, mets-toi à ma table et tu vas voir que ta coupe va déborder. Ah, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et c'est ce qui se passe après. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth n'habitait plus à Lodebar. Il habitait, son adresse était Jérusalem. Et vous savez où elle était son adresse? Dans le palais du roi. Formidable, hein? Vous qui cherchez un logement, c'est peut-être allez voir du côté d'Élysée, il paraît qu'ils ont pas mal de places. Hein? Méphibosheth habitait Jérusalem, car il mangeait toujours. Il était là. Dieu l'avait placé là par la bonté de David. à la table du roi. Puis je voudrais vous dire une dernière chose. C'est terrible, hein, ce qui est écrit. Il était boiteux des deux pieds. Il n'a jamais été guéri. Il était resté boiteux. Pourquoi était-il resté boiteux? David n'était pas un guérisseur. Hein. Voilà. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelquefois nous sommes à la table du roi et ça peut nous aider à comprendre les difficultés dans lesquelles nous passons. Alors il y a dans notre conversion des choses qui ont été extraordinaires. Des malades ont été guéris miraculeusement. Nous avons fait des expériences formidables, au-delà de toute compréhension. Nous étions peut-être des vagabonds et des errants. Et le Seigneur nous a pris, nous a fait manger à sa table. Puis quelquefois, il y a des choses qui subsistent dans notre vie. Et il y a une raison pour cela, ça subsiste. À 5 ans, il était boiteux. Là, je ne sais pas à quel moment les choses ont été écrites, mais peut-être avait-il 50 ans, 60 ans, moins, plus, mais il était toujours boiteux. Et là, il y a la grande leçon à tirer. C'est que dans les soins de la médecine d'alors, il aurait pu peut-être avoir un appareillage orthopédique ou autre chose, ou je ne sais pas, et peut-être même une guérison venir de Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont guéris. Non, il est resté comme ça. Quand il arrivait certainement au repas du roi, on entendait claquer sur le carrelage, c'était les béquilles. On savait que c'était Méphibosheth qui arrivait, voilà, ça claquait, ça cognait et tout ça. C'était toujours lui, hein. Ouais, il était toujours boiteux. Il y avait 2 leçons. Une leçon pour lui principalement, une leçon pour les autres. C'est que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Et quelquefois, il laisse subsister dans notre vie une chose. Enfin là, c'est en l'occurrence, c'était 2 choses, c'était ses pieds qui n'était pas guéri, pour nous montrer qu'on peut avoir toute la grâce de Dieu dans cette vie présente. On aura beaucoup plus de l'autre côté, vous ne tracassez pas, il n'y aura plus de problème de l'autre côté. On peut être à la table du roi, on peut être véritablement remis en position de dignité, tout ce que vous voulez, mais Dieu quelquefois laisse encore une trace. Comme Jacob, vous savez, il nous a dit que Jacob, quand il s'est converti, le tendon de la hanche a été cassé, coupé, et il boitait toute sa vie jusqu'à sa mort. Souviens-toi, Jacob. Souviens-toi, Méphibosheth. Souviens-toi, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, ou au masculin ou au féminin, que tout ce que tu es aujourd'hui, tu l'as reçu de la grâce de Dieu. Et quand tu penses que, quelquefois, tu as une douleur ici, tu as ceci et cela, c'est pour te rappeler que tu peux être dans le palais du roi, mais reste humble et modeste. Reste humble et modeste. Autrement, tu vas tout perdre. Sois modeste. Et quelquefois, il y a des douleurs dans notre vie pour nous montrer, c'est pour te rappeler d'où tu viens. C'est pour te rappeler que Dieu t'a fait grâce. En attendant d'avoir un corps glorifié de l'autre côté, bien il te rappelle que ton corps aujourd'hui. Parce que combien de fois nous avons vu des gens venir à l'imposition des mains, prier pour eux. Ils sont venus. Ils ont entendu le message de l'Évangile. Ils ont entendu parler du nom de Jésus-Christ. Ils ont cru, ils ont été guéris, et après avoir été guéris, ils ne sont jamais revenus. Et quelquefois, Dieu nous laisse quelque chose, un petit signe dans notre vie. Ça ne nous empêchera pas de vivre. Mais ça va nous rappeler que quand même, Dieu veut plus qu'une bénédiction. Il veut plus que nous mangions, plus que nous mangions à sa table. Il veut nous donner beaucoup plus que des terres et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est l'image finalement de toutes ces choses de la terre. Il veut nous dire tout simplement, eh bien, écoute, hein, le principal, c'est le salut de ton âme. Voilà. Puis quelquefois, ben, on est attaché à quelque chose pour dire, n'oublie pas que Dieu t'a sauvé, n'oublie pas qu'il t'a pardonné, n'oublie pas qu'il a fait de toi, alors que tu étais un errant et un vagabond, il a fait de toi un fils qui mange à sa table. Et ce matin, moi j'étais pas là, mais j'ai fait la même chose ailleurs. En tous les cas, on a mangé à la table du roi, vous comprenez? Ouais. Peut-être toujours le même menu, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce menu-là, en tous les cas, ben, il nous a rien coûté, mais il a tout coûté à Dieu. Prix de souffrance, d'humiliation et tout ce que voudrait, le sacrifice de Jésus-Christ. Nous, c'est gratuit pour nous. Alors restons simples, modestes et gardons la foi. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que ta parole, elle est merveilleuse. Ta parole, elle est extraordinaire. Ta parole, elle dévoie, comme nous le chantons quelquefois, tu ouvres pour nous des voies merveilleuses, et je ne sais pas pourquoi. Mais avec le temps, on sait pourquoi. On comprend, Seigneur, qu'il y a d'abondantes bénédictions, Seigneur, devant toi, que nous sommes admis, Seigneur, dans ton palais, à travers la prière, à travers le sanctuaire, Seigneur, de ta présence, ici ou ailleurs. Tu veux nous rappeler également que nous pouvons avoir tous les biens de la terre, que nous pouvons recevoir, eh bien, ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Mais une chose qui est certaine, c'est que le principal, si tu as béni Méphibosheth par le truchement de David, nous, en tous les cas, tu nous as béni notre Dieu par l'intermédiaire et la médiation de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus a donné sa vie, il est mort pour que nous vivions. Alors merci, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité, garde-nous dans la reconnaissance, et garde-nous de ne pas nous lasser de tes bienfaits, même si nous mangeons tous les jours à la table de notre roi. Oui, Seigneur, combien nous aimons cette parole. Tu dresses devant moi une table, et ma coupe déborde. Qu'elle puisse déborder longtemps, qu'elle puisse déborder toujours, qu'elle puisse déborder sur nous, et qu'elle puisse déborder, Seigneur, autour de nous et partout. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.